Go ahead.
Bonjour à tous. Donc, je vais déjà vous présenter brièvement l'institut pour lequel je travaille, qui s'appelle l'IRPA, donc l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. C'est un institut scientifique fédéral qui regroupe historiens d'art, chimistes, conservateurs, photographes, et tous ensemble collaborent à l'étude et à la sauvegarde du patrimoine belge. Et nous sommes regroupés en trois départements, un département de documentation, laboratoire et conservation. Et au sein du département conservation se situe ma cellule. Alors, nous sommes trois personnes à travailler dans cette cellule qui s'appelle le service d'études et décors des monuments historiques, qui est chargé de procéder à l'étude du second œuvre dans le cadre de la restauration de bâtiments classés. Alors à Bruxelles, évidemment, on est très gâtés avec l'art nouveau et nombreux bâtiments ont déjà été sculptés, décortiqués, analysés. Et au 48 rue de Fax, l'hôtel Chamberlain n'a pas échappé à la règle lorsqu'en 2004, une vaste campagne de restauration a été lancée et l'Institut Royal du Patrimoine Artistique a été chargé de procéder à l'étude définition intérieure. Donc, lorsque Paul Anka reçoit la commande de cette demeure en 1897 par Madame Veuve Chamberlain pour le compte de son fils, le peintre Albert Chamberlain, Paul Ancar est un tournant de sa carrière. Donc, il s'est formé auprès d'Henri Beillard. Il a commencé son activité de créateur de meubles et d'architecte en 1888. En 1893, on l'a vu avec Francis Tourneur, il construit sa maison personnelle au rue de Fax également, à quelques maisons de la maison de Chamberlain, en même temps que l'hôtel Tassel de son ami et concurrent Victor Horta depuis leur étude ensemble à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Et donc Paul Ancar, en 1897, il a jusqu'à présent conçu des maisons plutôt modestes ou des intérieurs de magasins, et il vient de recevoir la commande de l'aménagement des salles du Congo pour l'exposition universelle de Bruxelles avec Serrurier Bovy et Van de Velde. Et donc finalement l'hôtel Chamberlain constitue sa première grande maison de maître, et cette maison finalement en 2004, lorsque les nouveaux propriétaires l'achètent, elle était jusqu'à présent à l'abandon, puisque bien qu'elle soit classée depuis 1983, elle était un peu tombée dans l'oubli. Et grâce à la restauration qui est lancée, elle va sortir de cet oubli. Et il y a donc cette vaste campagne d'études qui est lancée, qui est commandée par la région de Bruxelles, la direction des monuments ici de la région Bruxelles-Capitale, et c'est commandé à l'IRPA. Donc l'hôtel Chamberlain, en fait, a connu de nombreuses transformations au cours du temps, et notamment en 1927 par l'architecte Adrien Blom, qui effectue de nombreuses transformations. Et donc il était primordial de déterminer si sous toutes ces transformations il subsistait encore de l'œuvre de Paul Ancar. Et donc les résultats de nos investigations étaient très importantes et étaient susceptibles d'orienter finalement la restauration. Alors la demande d'études dans un premier temps était axée uniquement au niveau des salons du rez-de-chaussée qui avaient été fortement modifiés, mais elle a été étendue à un salon du premier étage, le salon à rue, la cage d'escalier fortement modifiée par Adrien Blom et par une chambre du deuxième étage. Donc les modifications apportées par Adrien Blom en 1927 sont considérables. Donc ici, en fait, bon, excusez-moi pour la qualité de la photo, mais vous êtes dans ce qui était à l'origine le jardin d'hiver, et Blom le transforme complètement et en fait un bureau, et il unifie finalement avec le salon attenant qui est la salle à manger, puisqu'il met des lambris identiques à ceux de la salle à manger. Il pose une tenture blanche dans le haut de mur et la verrière est supprimée et est remplacée par ce plafond qui est placé plus bas et donc diminue fortement le volume. Alors, sur les plans d'Ancar conservés au Musée Royal d'Art et d'Histoire au fond d'Ancar, on pouvait comprendre évidemment qu'il y avait une verrière et qu'il y avait même une ouverture sur le mur est qui permettait la communication avec la pièce attenante. Donc, nos premières investigations ont été menées évidemment sur le mur est, et on a pu constater tout de suite que cette ouverture était bien présente. Donc ça, c'est l'ouverture sur les plans d'Ancar. Elle est ici, elle est comblée dans la partie supérieure par un parement de briques, et dans la partie inférieure, elle est juste masquée par un panneau glissé derrière les lambris. Derrière les tentures qui ornaient le haut des murs, on a découvert un décor de peinture murale composé de roses réalisées au pochoir, et une ouverture dans le faux plafond de Adrien Blom a permis de constater que cette peinture murale se poursuivait au-delà du plafond et épousait même la pente de l'ancienne verrière, et donc prouver la coexistence simultanée de ce décor avec la verrière. Cependant, ce décor, du point de vue de sa facture et de son style, ne pouvait pas être attesté de 1897, mais était plus tardif, plutôt 1910, sans pouvoir certifier la datation. Et de plus, nos investigations ont permis de trouver sous ce décor deux interventions plus anciennes, dont un décor monochrome bleu et des restes de papier de maculature qui attestaient la présence d'un papier peint, mais disparu. Alors, il est important également de se pencher sur le lambris, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a donc un traitement similaire entre la salle à manger et le jardin d'hiver. Des lambris qui semblent identiques, qui sont composés de montants et traverses en chêne, qui cloisonnent des panneaux d'acajou placés horizontalement dans la partie basse et verticalement dans la partie haute. Le démontage de ces lambris dans le jardin d'hiver... ici une vue de dos de ces lambris a permis de comprendre la construction de ces lambris, et on a établi une comparaison avec les lambris originaux qui ornent la salle à manger. Alors on a pu déterminer ainsi qu'il y avait trois types de construction, en fait ils n'étaient pas tous identiques, trois types de construction qui étaient importantes de décrire. Alors ici on est devant la technique dite encart, qui se caractérise par l'emploi de acajou du Honduras. Et cet acajou est celui qui a été le plus utilisé en Angleterre et par les ébénistes français dès le XVIIIe siècle. Il présente une tonalité plus claire et un grain moins fin que l'acajou de Cuba, mais l'acajou du Honduras supplantera l'acajou de Cuba lorsque celui-ci se raréfie. Et à la fin du XIXe siècle, bien que les créateurs s'orientent de plus en plus vers l'emploi de bois indigène, l'acajou américain est encore fréquemment utilisé. Alors les montants et les traverses dans ce lambris sont réalisés en chêne sur quartier de premier choix, et la construction est de qualité. Quand on se penche sur les lambris du jardin d'hiver, donc là c'est le revers, il y a deux types de constructions qui sont juxtaposées. Donc sur la gauche, il s'agit de la deuxième technique de construction de ces lambris, que l'on a appelé post-encart, qui se caractérise par l'emploi d'acajou d'Afrique occidentale, connu sous le nom de Grand Bassam. Donc il faut se rappeler que pendant près de trois siècles, les forêts des Antilles et d'Amérique centrale ont été exploitées intensivement. Et à la fin du XIXe siècle, l'acajou américain devenant rare et coûteux, on a tendance à lui substituer un bois africain, kaya, qui présente des analogies avec les véritables acajous. Alors ils sont d'abord utilisés en Grande-Bretagne, puis ils commencent à être importés en France vers 1880, et ils sont rebaptisés acajou pour des raisons évidemment commerciales. Et après la Première Guerre mondiale, l'importation deviendra exclusivement africaine. Et bien que proche de l'acajou du Honduras, le veinage est quand même moins subtil et tonalités plus sombres. Et ici, les panneaux de lambris sont plus minces que les panneaux originaux et la construction est moins soignée. Alors la troisième construction mise en évidence est la construction que l'on a appelée Blom. Et là, le bois utilisé est à nouveau du bois de l'acajou du Honduras, donc identique aux panneaux de lambris de Ankar. Et l'emploi de ce bois n'est sûrement pas anodin par Adrien Blom, parce que lorsqu'il fait ses modifications dans le jardin d'hiver et dans le salon central ou salle à manger, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il unifie les deux pièces. Et bien que ces transformations soient radicales, elles sont faites dans un total respect de l'œuvre de Paul Encart, et la plupart des éléments du salon sont transformés mais conservés. Et donc, soucieux de la qualité finale, Adrien Blom n'hésite pas à utiliser des matériaux identiques à ceux utilisés par Paul Encart. Et donc on peut imaginer qu'en 1927, pour la construction de ces nouveaux lambris, Adrien Blom avait à sa disposition un stock d'acajou du Honduras, puisque celui-ci se trouvait pratiquement plus sur le marché. Alors, ces panneaux, quand même, se distinguent dans leur construction, mais je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Alors, ces trois périodes de construction ainsi définies, on a pu affirmer que les lambris du jardin d'hiver n'étaient pas originaux. De plus, nos investigations sur les finitions murales, mais aussi au niveau du sol, ont pu apporter suffisamment d'informations. Également, les nombreux plans conservés au fond en quart ont été source d'inspiration, source de documentation pour conduire vers une reconstruction du jardin d'hiver dans sa facture originelle. Et donc, on a pu rétablir la continuité qui avait été voulue par Paul Ancard entre le jardin d'hiver et la salle à manger. Et toute cette continuité, je dirais, prend son sens quand on regarde les plafonds. Et donc, on a une succession verrière, plafond du jardin d'hiver et plafond de la salle à manger. Alors, parlons justement un petit peu de la salle à manger. Donc, quand on compare avec les sources photographiques à notre disposition, on comprend tout à fait les modifications qu'a engendré Adrien Blom. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a supprimé tout ce qui pouvait évoquer les décors créés par Paul Ancard. Il supprime donc tout ce qu'il considérait, lui, comme fioriture, c'est-à-dire les crosses qui ornent les hauts des lambris, et toutes ces modifications sont caractéristiques au niveau de la cheminée. Donc ici, c'est la cheminée telle que l'a conçue Paul Ancard, où il n'hésite pas d'associer les différents matériaux, comme le bois, la céramique vernissée ou le bronze. Et quand on compare avec la cheminée qu'a transformée Blom, on comprend tout à fait qu'en fait, il a démonté les parties supérieures, il s'est servi des briques récupérées pour combler la partie centrale, et il a fait alors un volume cubique, rectiligne, qui s'aligne avec le haut et des lambris, et qui était plus dans l'esprit art déco qui le caractérise. Donc les éléments encore comme les plans anciens conservés et le fait que finalement la cheminée n'avait pas perdu énormément d'éléments ont conduit vers une reconstitution de la cheminée dans son état Paul Ancard. Alors on a pu constater qu'il manquait quand même une vingtaine de briques. Alors il était impossible de retrouver évidemment les briques utilisées par Chamberlany qui provenaient de la compagnie Émile Müller et compagnie. Et donc on a fait appel à un céramiste, Christian Van Paris, qui a été chargé de la reconstitution de ces briques et qui a réalisé avant de nombreux essais et recherches pour retrouver ces nuances de vert et de bleu turquoise. Donc ici, la cheminée telle qu'elle est actuellement. Et donc, à cette cheminée, il s'agissait alors de rétablir l'écho qui avait été voulu par Paul Ancard, à savoir le buffet qui faisait face à cette cheminée. Parce qu'en effet, quand on regarde les photos anciennes, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux acteurs principaux qui sont manquants. Dans cette évocation de l'esprit d'Ancard, il s'agit de la table de la salle à manger et du buffet. Alors pour le buffet, on disposait là encore de photographies anciennes, mais aussi des plans très précis, des plans même à échelle 1-1, mais également du meuble en lui-même, encore existant, qui est conservé au Design Museum de Gand depuis les années 80. Alors on aurait pu rêver son retour dans son contexte originel, mais ça ce n'est qu'un rêve. On constate cependant quand même que ce meuble a un peu souffert. Les vitraux dans la partie basse ont disparu et sa finition également est complètement absente. Donc on a fait appel à un ébéniste, Renier d'Outre-le-Pont, qui avec tout son savoir-faire s'est attelé à réaliser, grâce à toutes les informations dont il disposait, une copie fidèle, en veillant à respecter l'emploi des mêmes matériaux. Donc il a retrouvé de l'acajou. Et grâce à la précision des plans, il a également reconstitué les crosses qui émergeaient à l'origine des lambris et qui en rythmaient la composition et la verticalité. Donc je vous montre ici quelques images du buffet ainsi reconstitué. Et la reconstitution a même poussé jusqu'à refaire des verres de type américain qui ornaient la partie basse. Alors l'évocation de l'esprit d'Ancart dans cette pièce ne pouvait pas être complète sans la table à manger. Alors elle aussi existe encore, elle est conservée au musée d'Orsay. Mais là encore, elle n'a servi que de modèle puisqu'elle n'a pas pu évidemment revenir à Chamberlany. Et là, Jean-Michel de Montblanc et Eric Sleutz, deux ébénistes, se sont servis de ce modèle et ils en ont réalisé avec brio une copie. Et pour cette table à rallonge, ils se sont là aussi, comme pour les lambris et pour les crosses, ils ont pu retrouver les matériaux d'origine. Et ils ont même pu retrouver de l'acajou du Honduras. Donc en parallèle à la reconstitution totale ou partielle de la cheminée, des lambris, du buffet, de la table, qui a permis de retrouver toute l'expression de l'œuvre Ancart, la restauration des toiles d'Albert Chamberlany qui ornent le haut des murs a rétabli l'esthétique chromatique de ce décor. Et ainsi réanimé, la salle à manger a retrouvé aujourd'hui son unité, son faste d'antan. Alors la résurrection de ces trois pièces du rez-de-chaussée n'a été possible que grâce à la confrontation des résultats des différentes études préalables qui constituent la mémoire documentaire de l'œuvre de Chamberlany et aussi à l'encadrement constant de la commission royale, de la direction des monuments et sites, des propriétaires et également d'un comité d'accompagnement composé d'historiens, de restaurateurs, de scientifiques et de différents spécialistes. Alors si les éléments originaux encore en place, identifiés lors de nos études, ont été conservés et restaurés, cela ne suffisait pas à faire revivre l'esprit Ancart. Et reconstruire Ancart nécessitait également, comme on l'a vu, la reconstitution du mobilier, de la mosaïque, de la verrière et des autres décors du salon du rez-de-chaussée. Et une telle approche vise à privilégier l'essence même du lieu et non plus la matière et son histoire. Et la matière première n'est finalement que le support et ne vient pas entraver l'objectif final. Et même si les restaurateurs et les artisans d'aujourd'hui se sont efforcés de respecter les techniques et les matériaux d'origine, et même si leurs travaux sont d'une qualité exceptionnelle, ils ont participé malgré tout simplement à une réalisation moderne qui copie fidèlement une œuvre ancienne. Et cette relecture, bien que subjective, redonne une âme au lieu et permet ainsi la transmission de l'essence même du bâtiment dans laquelle s'exprime tout le génie de Paul Ancart. Et aujourd'hui, aux pièces du rez-de-chaussée, qui est le témoin ressuscité de l'œuvre d'Ancart, viennent se confronter et se compléter les pièces des étages, mais que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, qui sont l'expression d'une vie familiale contemporaine qui crée ainsi une alchimie faite pour durer. Je vous remercie.